VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, en Éthiopie, 3 des 4 partis de la coalition au pouvoir, établis sur une base ethnique, ont décidé jeudi de fusionner en une seule formation politique. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed, qui avait initié ce changement, y voyant le moyen de renforcer l'unité du pays. Le nouveau parti créé pour succéder au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, en vue des élections générales prévues en mai 2020, s'appellera le Parti de la prospérité, a souligné M. Abiy. Le Premier ministre a ajouté que la nouvelle formation est déterminée à mettre en place un véritable système fédéral reconnaissant la diversité et les contributions de tous les Éthiopiens. En Guinée-Bissau, plus que 2 jours avant l'élection présidentielle de dimanche, les membres des forces armées et de sécurité ont donné hier le coup d'envoi du scrutin. 12 candidats sont en lice, tous des hommes. Le point avec Idriss Fall.
D'après la Commission nationale électorale, plus de 6 000 membres des forces de défense et de sécurité étaient appelés aux urnes. Quelques 1 500 soldats et policiers en uniforme ont voté dans le calme dans les 3 centres de vote à Bissau. Leurs votes sont comptabilisés, mais les résultats seront publiés après le scrutin de dimanche, où près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes. Ils doivent départager 12 candidats dont les favoris sont des acteurs de toutes les crises politiques qui ont ébranlé ce pays ces dernières années. Il s'agit notamment du président sortant José Mario Vaz, son ancien premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC, ou Nuno Nabiam à la tête d'une dissidence du PAIGC, ou encore un autre ancien premier ministre Carlos Gomes Junior, chassé par un putsch en 2012. Les premières tendances sont attendues en début de semaine prochaine et les résultats provisoires doivent être proclamés le 27 novembre et au second tour, hautement probable, est prévu le 29 décembre.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, l'armée malienne a découvert jeudi les corps de 13 de ses soldats portés disparus après l'attaque de lundi à Tabankor, localité du Mali près de la frontière du Niger, ce qui porte à 43 morts le bilan de cette incursion attribuée à des djihadistes. Les corps des 13 membres des FAMA, les forces armées maliennes qui n'avaient pas répondu présent, ont été retrouvés par une patrouille militaire malienne, souligne des sources sécuritaires. Le bilan était jusqu'à présent de 30 militaires tués. Le Burkina Faso voisin est le théâtre d'attaques régulières attribuées à des groupes djihadistes depuis 2015. Après une réunion à Bruxelles en février 2018, les donateurs avaient promis des centaines de millions de dollars à la force régionale du G5 Sahel pour combattre le terrorisme. Est-ce que ces promesses ont été tenues? Pour des détails, Idriss Fall a joint à New York Alpha Barry, le ministre burkinabé des Affaires étrangères.
C'est maintenant qu'il y a quelques matériels qui ont commencé à être livrés. Il y a eu des retards, il y a des structures qui devaient fabriquer des matériels en question. Il y a eu des retards. Chaque fois qu'on a dit ils vont donner à tel moment, après ça prend encore du temps. On est resté dans cette succession de reports et jusqu'à maintenant. Alors que la réunion de Bruxelles, c'est depuis février 2018.
Le G5 Sahel, on sait que le Mali, il y a quand même quelques problèmes parce qu'on a vu une lettre du Burkina se plaignant des incursions maliennes alors que les opérations devaient être conjointes. Qu'est-ce qui se passe entre le Mali et le Burkina?
C'est quelque chose qu'on est en train de régler. Je préfère ne pas me prononcer dessus. On appartient au même espace, dans les relations d'amitié, de fraternité, de coopération. Donc, en principe, il n'y a pas de problème.
Mais est-ce qu'il y a un problème aussi avec la France? On a vu beaucoup de voix s'élever contre la France au Burkina Faso. Et pourquoi?
C'est une situation un peu générale partout. Mais on est en train de gérer la situation. Je préfère ne pas pouvoir en dire plus.
Mais la France est une alliée du Burkina Faso. Et la France amène des soldats sur place.
Oui, la France est un pays allié dans la guerre du Burkina contre le terrorisme. C'est un allié important.
Que pensez-vous de ces alertes-là pour que les citoyens français ne se rendent pas au Burkina Faso?
C'est la même chose que font la plupart des pays. Hein. Je constate avec tout le monde. Sur ces questions, je ne peux pas en dire plus. Étant moi-même chargé de gérer ça.
Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est bien outillé pour vaincre vaincre le terrorisme alors?
Bien outillé. Dans tous les cas, la menace à laquelle nous faisons face est une menace nouvelle pour nous. Bon, ça fait 4 ans déjà que ça a commencé, mais c'est la première fois que le Burkina fait face à un conflit intérieur et donc essaie de s'adapter avec des alliés ou la communauté internationale. On est obligé de se battre pour assurer la survie de notre pays. Donc c'est un combat qui va être mené et qui est déjà en train de se mener.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont venir donner un coup de main, comme on dit, peut-être même une participation des forces ivoiriennes ou peut-être même sénégalaises?
Tout ça est en étude dans le cadre du plan d'action de la CDAO et également au niveau de l'UMOA.
Et vous pensez que la solution, c'est une solution militaire pour combattre le terrorisme, d'autant que les Américains, eux, discutent avec les talibans afghans?
La solution n'est pas que militaire, la solution est aussi celle de développement, la solution aussi est celle de la cohésion sociale, la solution c'est aussi celle de la réponse aux préoccupations des zones qui sont concernées ou des populations qui sont concernées. Donc, tous d'accord que la réponse n'est pas que militaire.
Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Relations États-Unis-République démocratique du Congo. Washington a annoncé hier à Kinshasa l'octroi d'une assistance de 600 millions de dollars à la RDC d'ici 2022 par le biais de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement. Objectif, consolider la transition en cours dans le pays depuis l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Les précisions d'Eddie Sango.
L'accord a été signé par les directeurs de l'USAID, Paul Sabatine, et les ministres congolais de la coopération internationale, Pépin Guillaume Mangelo Bouakila. Les gouvernements américains soutiennent les programmes de changement du président Félix Tshisekedi, a déclaré Mike Hammer, ambassadeur américain, dans un communiqué à Kinshasa. Ce financement appuiera les activités de développement liées à l'éducation, à la croissance économique, à la santé, à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, à la protection de l'environnement et à l'aide humanitaire, détaille les communiqués. Cet accord porte l'aide américaine dans ce secteur à 1,25 milliard de dollars depuis 2015, ajoutent les communiqués. Pour sa part, la France s'est engagée à mobiliser 71 millions d'euros dans le domaine de la santé. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé début novembre en recevant Félix Tshisekedi que son pays allait investir 65 millions d'euros pour accompagner les travaux de modernisation et de transformation de la République démocratique du Congo. En mai à Kinshasa, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait annoncé un programme de 300 millions d'euros sur la durée du mandat du président Tshisekedi jusqu'en 2023. M. Tshisekedi gouverne en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila qui a gardé les contrôles du Parlement et d'une majorité des 26 provinces.
Actualité hors d'Afrique maintenant, Proche-Orient. En Israël, le procureur général a décidé jeudi soir de mettre en examen le premier ministre Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le procureur général Avishai Mandelblit a décidé d'inculper Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans l'affaire 4000, a indiqué le ministère de la Justice. Après des mois de suspense, Benjamin Netanyahou est devenu hier soir le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être inculpé pour corruption pendant son règne. Cette annonce est intervenue quelques heures après que le président israélien a demandé au Parlement de trouver un premier ministre. Monsieur Netanyahou et son rival Benny Gantz ont chacun échoué à former un gouvernement après les élections législatives de septembre. Selon la loi israélienne, Benjamin Netanyahou peut demeurer Premier ministre malgré cette mise en examen, mais il ne peut pas devenir simple ministre dans un éventuel gouvernement de coalition. Cette inculpation pourrait toutefois minimiser les chances de M. Netanyahou de rallier une majorité de députés de la Knesset pour se maintenir au pouvoir.
Actualité américaine pour terminer. Le président Donald Trump souhaite qu'un possible procès en destitution qu'il menace ait lieu au Sénat parce qu'il y bénéficiera alors d'une procédure régulière. Le chef de l'exécutif américain s'attend aussi à ce que le candidat à l'investiture démocrate Joe Biden figure parmi les témoins, a souligné jeudi la Maison-Blanche. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.org. www.voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.